Il est toujours fascinant, je trouve, de se replonger dans une époque où, où la vitesse absolue des déplacements humains et matériels était entièrement dictée par les forces de la nature.
Ouais, complètement. C'est un changement de paradigme total.
C'est ça. On parle d'un monde qui était régi par les caprices du vent, par le courant parfois très tumultueux d'une rivière, ou, plus prosaïquement, par la cadence régulière des sabots d'un cheval sur un chemin de terre rocailleux.
Des chemins qui n'étaient d'ailleurs pas toujours en très bon état, hein?
Ah, ça c'est clair. Et c'est très précisément ce voyage dans le temps, ce basculement vers la modernité, qui attend notre public pour cette exploration d'aujourd'hui.
Une très belle plongée dans le passé en perspective.
Absolument. Notre plongée analytique s'appuie sur une source documentaire d'une richesse vraiment rare. Il s'agit du bulletin numéro 47 du Cartoclub Aveyronnais.
Qui a été publié en septembre 2010.
Exactement. C'est un numéro spécial, un document exhaustif qui est entièrement consacré à l'évolution des moyens de locomotion et de transport dans le département de l'Aveyron.
C'est un sujet d'une densité historique vraiment remarquable.
L'objectif de cette analyse, c'est de décortiquer comment une région entière est passée en l'espace de seulement quelques décennies, ce qui est très court, d'une mobilité rurale, artisanale et fondamentalement lente, à la frénésie mécanique qui a défini le XXe siècle.
Ouais, et avant même de disséquer les aspects techniques de cette transition, il est impératif de souligner la nature même de la source que nous examinons aujourd'hui.
Tout à fait, parce que ce n'est pas n'importe quel type de document.
Voilà, ce bulletin, ce n'est pas un simple recueil de textes académiques. Pas du tout. C'est un véritable sanctuaire iconographique. Et il faut d'ailleurs saluer ici le travail méthodique, même titanesque, de Guy Mazard.
Ah, et son rôle est crucial.
Absolument. En tant que rédacteur en chef et concepteur de la mise en page de ce numéro, c'est vraiment sa rigueur qui a permis de réunir, d'organiser et de mettre en valeur toutes ces archives visuelles.
C'est un travail de fourmi.
C'est ça. Et ce qui structure toute notre réflexion aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est le média utilisé pour documenter ces bouleversements. C'est la carte postale.
La fameuse carte postale ancienne.
Ouais, parce qu'à l'aube du XXe siècle, ce petit rectangle de carton imprimé, ce n'était pas qu'un simple souvenir de vacances qu'on envoie à la famille. Il agissait comme un témoin oculaire direct. C'était un outil de reportage populaire qui figeait pour la postérité les mutations d'une société en pleine accélération.
C'est une perspective très éclairante. En fait, la carte postale fonctionnait un peu comme le fil d'actualité visuel de l'époque. C'était accessible à toutes les couches de la société.
Exactement. C'était le réseau social avant l'heure.
Et pour bien saisir l'ampleur du choc technologique qui allait arriver, il faut d'abord comprendre le monde tel qu'il était avant l'arrivée du moteur.
Le monde du cheval.
Voilà. Ce qui nous amène à la première grande thématique de cette exploration. Et on va commencer par s'appuyer sur l'éditorial et le premier article qui sont signés par l'auteur Gilbert Regour. Ce retrace l'apogée, suivi du déclin inéluctable, des véhicules à traction animale. Et il met en avant une donnée statistique qui permet de vraiment mesurer l'échelle de cette économie. En 1906, la France recensait officiellement près de 1,2 million de chevaux, de mules et d'ânes.
1,2 million, c'est énorme.
C'est une force motrice organique gigantesque. Mais ce que l'article de Gilbert Regourde démontre particulièrement bien, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement de posséder un animal.
Non, c'était tout un système.
C'est ça. Autour de cette traction animale gravitait une économie hippomobile d'une complexité sociologique majeure.
Cette économie constituait littéralement la colonne vertébrale des sociétés rurales. Quand on examine les recherches de Gilbert Regour, on prend vite conscience que le cheval ou la mule, ce n'était que le maillon visible d'une vaste chaîne de métiers hyper spécialisés.
Des métiers qui ont presque disparu aujourd'hui.
Ouais, complètement. Il y avait les charrons, par exemple. Leur savoir-faire exigeait une maîtrise parfaite de la géométrie et de la résistance des bois pour fabriquer les roues. Ce n'était pas donné à tout le monde.
Il fallait que ce soit solide.
Exactement. Et puis, il y avait les forgerons qui cerclaient ces roues de fer à chaud, les selliers, les bourreliers qui travaillaient le cuir pour les attelages. Donc, la disparition progressive de la traction animale n'a pas seulement changé la façon de se déplacer, elle a bouleversé l'écosystème financier de villages entiers.
C'est toute une filière qui s'effondre, en fait.
Voilà. Et c'est là que la carte postale prend tout son sens en tant que document sociologique. L'article de Gilbert Regour mentionne un cliché particulièrement révélateur intitulé « La gueule, place de la patte d'oie ».
Ah oui, cette fameuse place, c'est une carte qui date du début des années 1910, je crois.
Oui, tout à fait. L'image capture une dizaine de voitures hippomobiles qui sont stationnées sur la place. Et ce qui est frappant, c'est la diversité. On y distingue des chars lourds pour les travaux agricoles, des charrettes beaucoup plus légères, des véhicules de transport pour les personnes.
Chacun a sa fonction très précise.
C'est ça. Cette simple image, elle fige l'organisation logistique d'une société où chaque type de marchandise ou de passager nécessitait un véhicule spécifique mu par la force musculaire.
Et on imagine bien que cette hyperspécialisation, avec autant de véhicules et d'acteurs, devait inévitablement engendrer une très forte concurrence.
Ah oui, surtout quand il s'agissait du transport de personnes.
Exactement. La transition vers les nouveaux modes de locomotion ne s'est d'ailleurs pas faite dans une harmonie parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. L'article de Gilbert Regour rapporte une situation de friction sociale très révélatrice qui se déroulait régulièrement à la gare de Rodez.
Ah, ce passage est incroyable.
La presse locale de l'époque avait même forgé un terme spécifique pour décrire ces affrontements. Ils appelaient ça la « tram omnibumachie ». C'est un concept linguistique assez singulier, non ?
C'est un mot génial. C'est un néologisme qui traduit super bien l'anxiété économique de l'époque face à l'innovation.
Totalement.
La tram omnibumachie, ça désignait la guerre commerciale, souvent très brutale, qui opposait les conducteurs traditionnels d'omnibus à chevaux d'un côté et les employés des tout nouveaux tramways électriques de l'autre.
On imagine l'ambiance sur les quais.
C'était explosif. À l'arrivée de chaque train en gare de Rodez, ces deux mondes entraient en collision pour capter la clientèle. Les chauffeurs hurlaient leurs tarifs à la volée, ils fendaient la foule des voyageurs en proposant des prix cassés, du genre 20 centimes pour le centre-ville.
Une vraie foire d'empoigne.
Complètement. Et ce qui se jouait sur ce quai de gare, ce n'était pas seulement une querelle de transporteurs, c'était vraiment le choc frontal entre un artisanat séculaire et l'industrialisation capitaliste naissante. Ceux qui maniaient le fouet comprenaient bien que l'électricité et la mécanique menaçaient directement leur survie économique.
Ces sentiments de dépossession chez les anciens professionnels du transport contrastent fortement, d'ailleurs, avec le sentiment de libération ressenti par les individus, par les usagers.
C'est souvent le paradoxe du progrès.
Oui, c'est ce qui marque l'entrée dans la deuxième phase de cette évolution, avec l'arrivée des premiers frisseurs mécaniques. Les sources montrent bien comment la bicyclette, dans un premier temps, a offert une autonomie inédite.
Le vélo, c'était la liberté absolue.
Voilà. La bicyclette permettait enfin de se soustraire à ce que le texte appelle, avec une grande justesse, la tyrannie des chevaliers du fouet. Mais ça permettait aussi d'échapper aux horaires rigides imposés par les compagnies de chemin de fer.
On part quand on veut, où on veut.
Exactement. Et puis, très rapidement après la bicyclette, l'automobile a fait son apparition, modifiant radicalement le rapport au temps et à l'espace. Cependant, il faut bien le dire, cette liberté nouvelle s'est accompagnée de risques jusqu'alors complètement inconnus.
C'est le revers de la médaille. La vitesse mécanique a effectivement introduit une nouvelle typologie de drame dans l'espace public. Il faut se rappeler que les infrastructures de l'époque, avec leurs routes empierrées, elles étaient conçues exclusivement pour l'adhérence des sabots et le roulement des roues cerclées de fer.
Elles n'étaient pas du tout prêtes pour la gomme des pneus.
Pas du tout. Elles n'étaient absolument pas adaptées aux pneumatiques ni aux vitesses atteintes par les moteurs à explosion. De plus, les conducteurs manquaient cruellement d'expérience. Le bulletin illustre cette sombre réalité par l'analyse d'un document édifiant.
La carte postale du premier accident mortel, c'est ça ?
Oui, c'est une carte postale qui relate le premier accident mortel d'automobile survenu en Aveyron. Ça s'est passé le 15 mai 1906 et ça a impliqué une figure locale bien connue, le docteur Bonnefait.
Et c'est un document dont la composition visuelle mérite vraiment qu'on s'y arrête, parce qu'il dépasse la simple photographie paysagère. C'est presque du journalisme.
Tout à fait. C'est un habile photomontage et ça révèle énormément de choses sur la psychologie de l'époque face au drame technologique. Sur ce document, on observe d'abord le paysage accidenté et assez spectaculaire du pont de Couesque. C'est le lieu exact où les freins du véhicule du docteur ont lâché.
Donc on a le décor de la tragédie.
Voilà. Mais l'éditeur de la carte n'en est pas resté là. Il a incrusté dans ce décor un portrait en médaillon du docteur Bonnefait, ainsi que des données chiffrées et textuelles très détaillées sur les circonstances de la tragédie.
On sent déjà la naissance du fait divers moderne.
C'est exactement ça. Cette démarche éditoriale, elle prouve que le public ressentait déjà ce besoin viscéral de mettre un visage sur la victime, de voir l'actualité tragique de manière immédiate. C'est une forme primitive, mais finalement très aboutie, du journalisme à sensation.
Ou même des chaînes d'information en continu, quand on y pense.
Oui, ils utilisaient la carte postale pour traiter le traumatisme collectif engendré par la machine.
Il est vraiment frappant d'observer cette dualité. La machine fascine autant qu'elle terrifie. Et parfois, cette confrontation entre l'ancien et le nouveau monde générait des situations visuellement presque absurdes. Le texte met en lumière une autre carte postale qui a été éditée en 1907.
Celle avec la mule.
Oui, celle qui porte le titre très évocateur de « Une mauvaise rencontre ».
Elle est formidable, cette image.
Elle est très drôle. L'image immortalise un autobus à vapeur, un mastodonte de la marque Darracq-Charpollet qui circule dans la vallée du Lot. Et on y voit cet engin massif qui crache de la vapeur, totalement immobilisé face à une mule rétive.
Choc des titans.
C'est ça. L'animal, manifestement terrorisé par le bruit épouvantable et la fumée, bloque obstinément la route. La machine ne peut plus avancer. C'est la métaphore parfaite de cette époque charnière.
Cette scène est d'une richesse allégorique indéniable. D'un côté, on a le Darracq-Serpollet, qui est un concentré d'ingénierie lourde, bruyante, qui nécessite du charbon et de l'eau pour avancer. Et de l'autre, la force animale, têtue, bien ancrée, habituée à dicter son rythme au paysage depuis des siècles.
Et la mule gagne, au moins temporairement.
Voilà. Et le fait que cette photographie ait été prise dans la vallée du Lot, ben ça nous offre une transition géographique très pertinente.
Tout à fait.
Car avant que les routes terrestres ne soient suffisamment aménagées pour permettre à ces monstres de vapeur ou d'essence de circuler de façon fluide, les véritables artères lourdes du département, elles étaient fluviales.
Oui, on a tendance à l'oublier, mais l'eau précédait effectivement le goudron. Et pour bien comprendre cette dynamique, il faut s'appuyer sur l'analyse détaillée qui est fournie cette fois-ci par l'article de l'auteur Jean-Pierre Krume.
Un article passionnant sur le rôle historique des rivières.
C'est ça. L'auteur explore vraiment cet aspect et il utilise une expression particulièrement poétique pour désigner le Lot. Il qualifie la rivière de route qui marche.
C'est une très belle formule.
C'est magnifique. Cependant, la réalité quotidienne de la navigation sur ces cours d'eau était tout sauf une promenade romantique du dimanche. C'était une entreprise industrielle d'une dangerosité extrême.
Ah oui, l'article de Jean-Pierre Krume est fondamental pour déconstruire cette fameuse image d'Épinal du long fleuve tranquille. Au XIXe siècle, le Lot supérieur, c'était l'épine dorsale de l'économie locale.
L'autoroute de l'époque.
C'est par là que transitait le charbon lourdement extrait des mines de Bouquet. C'était essentiel à la révolution industrielle, mais ça servait aussi au transport des productions viticoles en fût.
Des tonnages énormes, donc.
Exactement. Les routes terrestres de la région étant impraticables pour de tels tonnages, le bassin industriel d'Aubin-Décazeville dépendait de manière vitale de cette voie d'eau. Mais naviguer sur le Lot, ça exigeait de manœuvrer des embarcations très spécifiques, les gabares.
Ce sont des bateaux à fond plat, c'est bien ça.
Oui, et il fallait les diriger à travers des courants traîtres, des rapides imprévisibles et des tournants très serrés. La force hydraulique ne se domptait pas facilement, et les naufrages entraînant la perte de toute la cargaison, voire des vies humaines, n'étaient pas rares du tout.
Le risque mortel inhérent à cette profession de marinier était d'ailleurs profondément ancré dans la culture populaire locale. L'article de Jean-Pierre Krume cite un dicton patois qui illustre parfaitement cette fatalité ambiante.
Ah oui, ce dicton est très parlant.
Le proverbe dit « Qui passe le Tarn, l'Olt et l'Aveyron n'est pas sûr de retourner à sa maison. »
C'est glaçant.
Ce proverbe résume à lui seul l'anxiété quotidienne des familles de mariniers quand ils voyaient partir leurs proches sur l'eau.
Et c'est précisément parce que cette activité commerciale sur le Lot supérieur a disparu assez tôt, supplantée finalement par le chemin de fer, que les témoignages cartophiles prennent une valeur d'archives inestimable aujourd'hui.
Sans ces cartes, on n'aurait presque plus rien pour visualiser cette époque.
C'est ça. Les cartes postales analysées dans le bulletin agissent comme les ultimes fenêtres ouvertes sur cette organisation sociale engloutie. Jean-Pierre Krume décrit par exemple le cliché des laveuses au bord du Lot qui a été pris à Villennes-sur-Lot.
Une scène de la vie de tous les jours.
Oui, et sur cette carte, on observe une cohabitation fascinante entre le travail domestique, avec ces femmes sur les berges, et l'activité commerciale des lourdes gabares qui sont amarrées en arrière-plan. Tout un monde sur le même plan.
Et il y a aussi cette carte des mariniers, très émouvante.
Oui, la carte poignante titrée « Le vieux marinier du port de Pennes-sur-l'Eau ». Le visage de cet homme qui est profondément buriné par le soleil et le vent, saisi sous l'arche d'une porte de la ville. Son visage raconte à lui seul des décennies de lutte acharnée contre les éléments.
C'est vrai que ces images restituent la dimension humaine, charnelle, de ce que fut le transport fluvial avant l'ère des moteurs.
Des vies entières dédiées au transport.
Cette volonté perpétuelle, finalement, de maîtriser l'environnement physique se retrouve à chaque étape de notre exploration. Que ce soit depuis le domptage de la mule, jusqu'à la navigation sur des rapides dangereux, en passant par la conception des moteurs à explosion, l'humain essaye de dominer la distance.
C'est le grand défi de l'humanité.
Mais l'évolution des transports a franchi un cap psychologique radical lorsqu'elle a quitté la surface de la Terre. La conquête de l'air représente une rupture totale avec tout ce qui précédait.
Et c'est exactement le sujet de l'article rédigé par Claude Colomb.
Tout à fait. Son texte explore brillamment cette dimension aérienne, ce rêve d'Icare devenu réalité.
L'analyse de Claude Colomb démontre avec beaucoup de pertinence que l'aviation naissante n'était pas perçue comme un simple perfectionnement technique. Ce n'était pas juste une évolution de la voiture. C'était vécu comme un véritable miracle de l'ingénierie humaine.
Presque de la magie pour certains.
Et ce qui ressort de ces recherches, c'est que cet émerveillement n'était pas du tout l'apanage exclusif des élites parisiennes. La province, et plus particulièrement les zones rurales de l'Aveyron, vivaient cette aventure avec une ferveur collective extraordinaire.
Ils suivaient ça de très près.
Oui, ils suivaient les exploits aériens comme on suivrait aujourd'hui l'exploration spatiale ou les premiers pas sur Mars.
L'effervescence populaire atteignait vraiment des sommets. L'article de Claude Colomb détaille notamment la fête de l'aviation qui fut organisée à Milo en mai 1911. C'est un événement qui a littéralement paralysé la ville.
Tout le monde s'est arrêté pour regarder.
Pour l'occasion, un grand espace public, le Champ Bouquier, a été entièrement reconfiguré. Ils l'ont transformé en aérodrome de fortune dans le seul but d'accueillir un jeune aviateur nommé Gibert.
C'est fou quand on y pense.
Il est fascinant de conceptualiser l'impact cognitif d'un tel événement sur une population rurale en 1911. Voir une machine de toile et de bois arracher un homme à la gravité terrestre tenait, pour beaucoup, du prodige absolu.
L'atterrissage et le décollage devenaient des spectacles de masse. Les gens se bousculaient pour voir ça. Mais la véritable force du texte de Claude Colomb, c'est de prouver que l'Aveyron ne s'est pas limité à un rôle de spectateur passif face à cette modernité aérienne.
Ils ont mis la main à la pâte.
L'esprit d'innovation avait infusé localement, et l'illustration la plus éclatante en est fournie par une carte photo extrêmement rare qui est reproduite dans le bulletin. Elle immortalise le travail d'Émile Gasque.
C'est un habitant de la commune de Martial, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Saisi par la passion de l'air, cet homme a entrepris, dès 1911, de construire son propre aéroplane. Un monoplan, directement sur sa propriété.
C'est une audace incroyable. Passer de l'observation admirative lors d'une fête de l'aviation à la construction artisanale d'une machine volante dans son propre champ, ça démontre une foi inébranlable dans le progrès technique.
Il faut avoir un sacré courage. La photographie de l'appareil d'Émile Gasque, elle est d'ailleurs un témoignage puissant de cette ère des pionniers.
Elle ressemble à quoi, cette machine ?
Sur l'image, on voit une armature qui nous paraîtrait aujourd'hui d'une fragilité alarmante. Ça repose sur de simples roues de bicyclette au milieu d'un paysage agreste, très rural.
Des roues de vélo pour un avion, on est vraiment dans le bricolage de génie.
C'est ça. Et ça met en lumière la démocratisation rapide du savoir technique. La carte postale a servi ici non seulement à documenter l'événement de manière neutre, mais aussi à valider socialement l'exploit de ce bricoleur local.
Elle inscrit son audace dans le grand récit de la conquête spatiale, enfin aérienne pour l'époque, à l'échelle régionale.
Tout à fait. C'est la preuve par l'image qu'il participait au progrès.
En parcourant toutes ces étapes, de la place encombrée de charrettes hippomobiles à la Guiole, au drame de la route, en passant par les périls quotidiens du fleuve Lot et les rêves d'envol à Martiel, on perçoit vraiment une continuité dans le désir humain de repousser les limites de la mobilité.
Et d'aller toujours plus vite.
Toujours plus vite, oui. Mais au-delà de l'évolution purement mécanique, c'est la manière dont tous ces bouleversements ont été conservés qui suscite la réflexion aujourd'hui.
Oui, la trace matérielle de l'histoire. Si l'on doit dégager la thèse centrale de ce bulletin numéro 47 du Cartoclub, elle réside vraiment dans la fonction patrimoniale du support.
Le bout de carton imprimé.
Voilà. Qu'elle soit ancienne, semi-moderne ou même moderne, la carte postale fut le maillage informationnel incontournable du début du XXe siècle. Les photographes sur le terrain, les éditeurs régionaux et bien sûr les citoyens qui s'échangeaient ces correspondances, ils ont tissé, sans même le savoir, une toile d'archives sociologiques de première importance.
Une mémoire collective.
Et il faut bien comprendre que sans la rigueur obsessionnelle de ces collectionneurs, de ces cartophileurs locaux, la mémoire visuelle de ce passage si brutal et décisif de la traction animale à l'ère du moteur serait aujourd'hui lacunaire.
Voire totalement effacée pour certaines anecdotes.
Complètement effacée, oui. Ils sont les véritables conservateurs d'une mémoire ouvrière, artisanale et technologique.
La fragilité de ces témoignages imprimés sur de simples bouts de carton qui ont survécu à deux guerres mondiales et à plus d'un siècle d'histoire force l'admiration. Et cela soulève une interrogation fondamentale, une perspective que notre public pourra garder à l'esprit bien après cette analyse.
Oui, ça fait écho à notre époque.
Exactement. Nous traversons aujourd'hui une nouvelle ère de transformation radicale. L'intelligence artificielle modifie la navigation, les véhicules tendent vers l'autonomie totale, la conscience écologique redessine complètement l'urbanisme. Et pour immortaliser tous ces changements, nous générons quotidiennement des milliards de photographies numériques.
Des images souvent invisibles, stockées dans le cloud?
C'est ça. Elles sont stockées dans des serveurs lointains. Mais lorsque l'on se projette dans un siècle, on est en droit de se demander si les historiens de demain auront accès à des archives numériques aussi pérennes, aussi facilement transmissibles et aussi intimement liées à la matière qu'une simple carte postale conservée précieusement dans le tiroir d'une commode.
La question reste ouverte.
C'est une réflexion profonde, je trouve, sur la nature physique de la trace que notre époque, qui est si riche en données mais paradoxalement si pauvre en support tangible, laissera véritablement aux générations futures.